m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. S'il avait vécu dans la France du XVIIe siècle, il aurait pu être Jean Racine ou un siècle plus tard Voltaire. Mais si le narrateur du roman dont nous allons parler aujourd'hui a reçu la charge d'écrire l'histoire d'un royaume, il s'agit du royaume chérifien, autrement dit du Maroc, et plus précisément du Maroc du roi Hassan II. Pourtant, le roman de notre invité, Maël Renoir, ou plus exactement le récit de ce narrateur, un lettré érudit formé au prestigieux Collège Royal de Rabat et à Paris à l'Université de la Sorbonne, a des faux airs de Saint-Simon, de Comte des Mille et une nuit aussi. Ce récit enlevé n'est ni un portrait en creux d'Hassan II, même s'il y a toute sa place, ni le récit de l'histoire du Maroc du XXe siècle, même s'il est rythmé par des péripéties qui sont réellement advenues. C'est surtout un ouvrage sur les grandeurs et les petitesses de la courtisanerie, et donc sur les lumières et les ombres de ces ambitieux qui fréquentent les antichambres du pouvoir. L'historiographe du royaume de Maël Renoir est paru aux éditions Grasset, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Maël Renoir.
Bonjour Jean-François Cadet.
Merci d'être avec nous. Il faut avancer bien au cœur du roman pour découvrir le nom du narrateur. Il s'appelle Abderrahmane El-Jarib. C'est un personnage absolument fictif.
Oui, c'est un personnage absolument fictif. D'ailleurs, son nom, je l'ai trouvé moi-même relativement tard. Il se prénomme Abderrahmane en référence à un personnage de la littérature arabe, Abderrahmane el-Iskandarani, qui est le personnage d'un livre de la fin du XVIIIe siècle, Les Dix Soirées Malheureuses, qui est une parodie des Mille et Une Nuits, écrite par un haut fonctionnaire égyptien, et qui prend une place à un moment dans le récit, et c'était important qu'il s'appelle, qui porte le même prénom que le personnage de ce livre ancien. Et ensuite, pour son nom de famille, j'ai consulté des amis marocains de Paris, je leur ai, et de leur réponse est sorti ce patronyme.
Donc rien à voir avec Abdelwahab Ben Mansour, qui fut l'unique historiographe d'Hassan II, ni même avec l'historiographe actuel, avec Hassan Aourid ou Abdellah Lamrini qui ont occupé cette fonction.
Non, alors effectivement, il y a eu trois historiographes du royaume au Maroc depuis 1961, c'est-à-dire depuis le début du règne de Hassan II et la réintroduction de cette charge officielle. Effectivement, Abdelwahab Ben Mansour a été l'historiographe de Hassan II et même celui de Mohamed VI, puisqu'il a exercé cette fonction, je crois, jusqu'à sa mort en 2008. Et à vrai dire, je n'ai pas étudié j'ignore sa biographie, je ne l'ai pas étudiée, je ne voulais pas être influencé.
Vous n'êtes pas allé regarder?
Non, je sais ensuite quelle a été celle de Hassan Aourid et celle de l'actuel
de Lamrini.
El-Merini. Alors ils ont l'un et l'autre, d'ailleurs on peut leur trouver des points communs mais très superficiels assez superficiels avec mon personnage. El-Merini, si je ne me trompe pas, a été professeur d'histoire parce qu'il le désigne pour être historiographe. Mon personnage a étudié l'histoire à la Sorbonne et Hassan Aourid a été élève au Collège Royal à l'époque de Mohamed VI, comme l'est mon personnage au début des années 40 à l'époque du prince Moulay Hassan, le futur Hassan II, mais disons que les analogies s'arrêtent là.
Et vous ne les avez pas contactés, donc ces deux historiographes encore en vie, pas du tout.
Pas du tout, et je pense honnêtement qu'ils auraient gardé une confidentialité de bon aloi sur leurs fonctions.
Effectivement, en tout cas vous le disiez.
Je n'ai pas cherché à les contacter.
Alors vous le disiez, Maël Renoir, il a fait de brillantes études, votre narrateur, votre Abderrahmane, il est allé se former à Paris, doctorat d'histoire à la Sorbonne, il va croiser Jean-Paul Sartre, collaborer à la revue Présence Africaine, c'est donc un homme de Saint-Germain-des-Prés, un étudiant qui a fait ses classes effectivement en France, mais c'est surtout un ancien élève du Collège Royal de Rabat. Il est donc issu du vivier de l'élite du royaume. C'est là en fait que sont recrutés traditionnellement les hauts dignitaires du régime.
Alors en réalité, c'est même pas vraiment une tradition immémoriale, contrairement à ce que je laisse entendre dans le récit, parce que je trouvais que c'était un peu plus romanesque. Mmh. C'est le père du prince Hassan, le sultan Mohamed, Sidi Mohamed, qui va devenir Mohamed V, qui avait créé cette institution dans l'enceinte du palais pour donner une éducation assez avancée à son fils, à le prince Hassan. Et il y avait un mélange de professeurs issus du Maroc et de professeurs français. Ensuite, Il est plus difficile pour cette époque-là de savoir exactement qui ont été les camarades de classe du prince. Je n'ai jamais trouvé la liste dans aucun ouvrage. J'ai interrogé quelques personnalités marocaines qui m'ont donné quelques noms, mais c'est difficile de reconstituer exactement ce qu'a pu être cette classe. À l'époque, donc, ça a laissé aussi une part à l'imagination.
Mais
à
le recrutement, mais l'idée justement de recrutement populaire et donc de faire en sorte que le futur souverain soit en contact avec des gens de toutes les classes sociales, de l'ensemble du pays, ça, c'est une réalité.
Je pense que c'est l'idéal du Collège Royal. Ensuite, dans la pratique, je serais bien en peine de savoir si l'on a toujours été ainsi aux différentes époques, puisque même quand il n'y a pas de futur roi en classe, les neveux, enfin les différents membres de la famille royale y étudient également.
Donc ils sont camarades de classe, hein, le futur roi Hassan II et votre personnage Abderrahman qui est aussi le narrateur du roman, ils ont le même maître à penser et ils ont donc ils usent leur fond de culotte si j'ose dire sur les bancs de la même école. Ils sont pas si proches que ça, hein, quand ils sont au Collège Royal.
Non, puisque mon personnage d'ailleurs a le malheur de faire un coup pendable au prince en le laissant gagner aux échecs et ensuite en s'en vantant malencontreusement auprès d'un de ses camarades qui le dénonce. Donc il a déjà une première période de disgrâce à l'époque de l'internat et des études au Collège Royal.
Alors des années après, une fois revenu de cette période parisienne, il espère quand même être nommé à un poste de prestige. Première douche froide, on l'envoie dans un endroit assez improbable, un Tarfaya, c'est une sorte de traversée du désert dans tous les sens du terme.
Dans tous les sens du terme, oui, parce que alors Tarfaya est au sud du royaume, c'est une ancienne possession espagnole, et ça, d'ailleurs c'est un lieu qui est aussi célèbre dans l'histoire pour avoir était une base de l'aéropostale, j'allais dire l'aérospatiale, mais c'est l'aéropostale où Saint-Exupéry a été chef de poste avant que Saint-Exupéry soit connu. C'est là qu'il a commencé à écrire, je crois, Courrier Sud. Et ensuite, dans Le Petit Prince, dans Terre des Hommes, il parle il est inspiré par cette vie qu'il a eue aux confins du désert.
Oui, donc d'ailleurs, il y a un clin d'œil à Saint-Exupéry. Il y a plein de clins d'œil comme ça dans le roman que chacun peut ou pas décoder d'ailleurs, mais peu importe. Donc il est envoyé en tout cas, donc quasiment en exil, hein, finalement, en exil intérieur, si j'ose dire.
Oui, c'est une sorte de mise au placard. Voilà. Mais enfin, il n'est pas emprisonné, il n'est pas embastillé. S'il y a un moment aussi un parallèle avec les historiographes de l'époque de Louis XIV qui ont pu être réellement embastillés, mais il est dépouillé de tout prestige, de tout pouvoir. Il doit rester pendant quelques années.
Sept ans de pénitence en quelque sorte. Hein. Il essaie de temps en temps de rappeler son existence aux autorités de Rabat. Il est un peu mortifié. Il s'en amuse aussi parce qu'il a un petit peu de recul sur lui-même quand même. Il écrit un rapport sur le Grand Maroc aquatique. Voilà, ce qui est déjà un vaste programme.
Oui, ça s'est inspiré d'une idée qui a eu vraiment cours à la fin du 19e siècle et d'ailleurs qui a inspiré, je crois, un des derniers romans de Jules Verne. Des ingénieurs français et anglais, chacun de leur côté, imaginaient creuser un immense canal, enfin c'est vraiment l'époque des grands travaux, Panama, Suez, etc. Ouais. Creuser un immense canal pour faire venir la mer au cœur du Sahara, dans une zone où le niveau du sol est assez bas, et créer comme ça une sorte de mer intérieure. Il y a vraiment eu des réflexions à ce sujet, et donc mon narrateur, pour tuer le temps, imagine de proposer au roi un rapport ironique et sarcastique sur la relance de cette grande idée.
Voilà, et il finit quand même par rentrer à Rabat, et donc par être nommé par décret à ce poste d'historiographe du royaume. Alors un historiographe, c'est donc un écrivain qui est officiellement chargé d'écrire l'histoire d'un souverain, d'une époque, d'un pays, bref, l'histoire de son temps. Et le vôtre est donc choisi par Hassan II, qui est donc, on l'a dit, son ancien camarade de classe. Et commence alors un jeu assez réjouissant, le jeu qui porte un nom, la courtisanerie. L'un des épisodes les plus cocasses, c'est lorsque le roi se trompe sur le titre du livre que votre narrateur Abderrahman a publié. Nous sommes page 120 de votre roman.
Le roi me présenta obligeamment à ses dignitaires, en ayant soin de préciser qu'en plus d'exercer les fonctions éminentes d'historiographe du royaume, j'étais le distingué auteur d'un livre de poésie que Sa Majesté, en feignant de ne pas hésiter, appela malencontreusement élégie mauresque au lieu de barbaresque. Il n'y avait pas d'apparence que cette erreur pût être corrigée aussitôt devant le roi et cette assemblée, et j'eus garde de révéler mon trouble. La réunion se passa. Quand elle eut pris fin et que nous eûmes quitté la salle, je me glissai auprès de quelques ambassadeurs et conseillers qui continuaient à parler dans le couloir. Et leur conversation me parut si cordiale que je crus possible de rectifier à leur usage la méprise du roi, dont je m'imaginais presque qu'il prendrait la liberté, en son absence, de rire de bon cœur. Je ne pus me cacher qu'il entrait aussi, dans les intentions qui me conduisirent à cette inconscience, une part d'orgueil, car je ne voulais pas quitter les dignitaires sans avoir introduit dans leur esprit la notion de l'existence de mon livre, et peut-être la curiosité de le lire, et le prétexte m'en paraissait fourni par l'occasion de leur dire son titre exact. J'aurais été mieux inspiré de n'en rien faire, car après m'avoir entendu, l'un des conseillers dit qu'il fallait absolument que je fisse réimprimer mon ouvrage sous le titre que le roi lui avait donné, après avoir retiré des bibliothèques royales et des librairies la version originale, dont il me signifia qu'elle était désormais caduque. Je crus d'abord qu'il plaisantait, mais je le vis affecter tout le sérieux possible. Quant aux ambassadeurs, ils acquiescèrent à ces paroles, fermèrent leur visage et me témoignèrent une sorte de compassion qui ne laissait pas de doute sur leurs pensées.
Voilà, dur, hein, la vie de cour, Maël Renoir, comment plaire au monarque, jusqu'où aller dans la compromission, y compris vis-à-vis de soi-même, hein, comment attirer les bonnes grâces et éviter la disgrâce, ça c'est tout un art.
Alors cette anecdote, elle est totalement inventée, évidemment, puisque mon personnage est lui-même inventé, mais elle est inspirée d'une chose que j'avais lue dans une biographie de Hassan II, vaste biographie écrite par Ignace Dahl, dans lequel il rapporte qu'un jour, Jean Daniel a fait une interview de Hassan II.
Donc Jean Daniel, ancien patron du Nouvel Observateur.
Absolument. Non pas proche, mais en tout cas, souvent été l'interlocuteur du roi. Il fait une interview de Hassan II qui se trompe dans une citation, en parlant, je crois, de le style c'est l'homme. Il attribue cette citation à La Bruyère, plutôt qu'à Buffon. Mmh. Et Jean Daniel, au lieu de simplement corriger de lui-même, en retranscrivant l'entretien, appelle le palais royal, tombe sur un conseiller qui est Driss Basri, qui deviendra plus tard ministre de l'Intérieur, et qui lui dit « voilà, j'ai remarqué cette petite erreur, que faire ?» Et Driss Basri, au lieu de lui dire « mais corrigez la parole du roi », lui dit « mais essayez de trouver une citation de La Bruyère qui ressemble à celle que le roi a dite. »
Donc le roi, par définition,
roi,
ne peut pas se tromper.
On ne peut pas corriger le roi. Oui.
Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important, effectivement, et ça en dit long, effectivement, sur les mœurs de cour. Et c'est d'autant plus difficile pour votre narrateur, Maël Renoir, que Hassan II, un petit côté sphinx, quoi. Il affiche un visage impassible, il parle souvent par énigme, en plus parfois il se déguise, enfin il y a tout un jeu comme ça. Il aime ce jeu du chat et de la souris avec son entourage.
C'est un personnage complexe qui est assez charmeur aussi à cet égard, dont j'ai regardé un certain nombre d'interviews qu'on peut trouver aujourd'hui sur YouTube, il y a beaucoup d'archives. Il a un côté sphinx. Il a aussi de l'humour, mais le problème de l'humour chez un homme doté d'un pouvoir absolu, c'est qu'il peut facilement passer du côté de la cruauté, sans même peut-être que le monarque en question s'en aperçoive toujours. Et il est impénétrable pour mon personnage, qui finit, en fait, au fur et à mesure que les années passent et qu'il prend l'habitude d'alterner les moments de grâce et de disgrâce.
Oui, c'est la douche écossaise.
Il finit par redouter, en fait, tout ce qui peut lui arriver quand il entre dans son bureau.
Alors Abderrahmane parle à propos du roi, je le cite, enfin je vous cite et je le cite en même temps, son pouvoir absolu de prodiguer selon son plaisir ou ses desseins impénétrables, un jour la peine et le lendemain la joie, un jour la case noire et le lendemain la case blanche sur l'échiquier de la vie. Et il se trouve que le jeu d'échecs, vous en avez déjà parlé d'ailleurs depuis le début de cette émission, Maël Renoir, c'est, si j'ose dire, l'un des fils rouges, un des fils noirs et blancs, on va dire, de ce livre. C'est une bonne métaphore de la vie de courtisan et peut-être même une bonne métaphore du pouvoir, le jeu d'échecs.
Oui, c'est aussi d'ailleurs une raison pour laquelle j'ai filé cette métaphore, c'est que c'est une image très classique de la littérature arabe. Il y a d'ailleurs un moment où je cite un poème d'Omar Khayyam que le narrateur retraduit à sa façon en français. C'est une symbolique évidemment très riche. Il écrit lui-même des des poèmes sur le thème du jeu d'échecs qui semble inspiré d'une longue tradition poétique. Je me souviens d'avoir lu, en travaillant sur Lille, je me suis beaucoup documenté. Hein, Malek Chebel, en son temps, a écrit de belles choses sur la présence du jeu d'échecs dans l'histoire, dans la cour des sultans et dans la littérature arabe. Donc j'avais envie de... Il me semblait naturel de placer cette métaphore dans le livre. Elle a même, d'une certaine manière, étendu sa présence au-delà de mes intentions, puisque un de mes lecteurs m'a fait remarquer récemment qu'un épisode dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est celui du coup d'État manqué pendant lequel mon personnage va se trouver remplacé pendant quelques instants
sûr,
le roi, il m'a dit que c'était la figure du roc aux échecs quand la tour prend la place du roi et que le roi se cache sur le côté, et je n'y avais absolument pas pensé.
Alors vous avez été malheureusement conseiller d'un premier ministre en France, François Fillon. La courtisanerie, vous avez pu l'observer aussi en France, c'est pas l'apanage du royaume chérifien.
En l'occurrence, il y a assez peu de passages entre les deux expériences. C'est un véritable roman.
C'est pas un roman exagère, transposé au Maroc,
qui exagère beaucoup. Qui exagère parce que c'est aussi le propre de la littérature, je crois, un certain nombre de choses réelles. Il y a effectivement des phénomènes.
Ne dites pas non.
Il y a des phénomènes de cet ordre partout, je crois, dans tous les pays. Peut-être que dans un pays où les alternances politiques sont plus rapides, les enjeux sont moins grands pour la vie et la mort des personnages.
Certes, il y a aussi un autre point commun, c'est que en France, comme à la cour d'Hassan II, tel que vous le racontez dans le roman, en France, on se pique aussi beaucoup souvent de littérature dans les milieux politiques, surtout ceux qui aspirent aux plus hautes fonctions. C'est du vernis ou c'est de la réalité? Ce sont des grands lecteurs, nos hommes d'État.
Vous voulez dire en France?
Oui, en France, oui.
Ça dépend des personnalités en question, mais oui, je crois qu'il y a une curiosité chez certains d'entre eux, en tout cas, pour la littérature, effectivement.
Oui, et de l'intérêt pour ceux qui savent écrire. Je me souviens que Chirac a choisi Alain Juppé parce qu'il recherchait un énarque sachant écrire, donc François Fillon, en vous approchant, voulait un normalien sachant écrire.
Oh, c'est une vieille tradition de la Ve République, effectivement, de chercher des normaliens pour aider les personnalités politiques à écrire leur discours, effectivement.
Oui. Mais François Fillon, qui n'a pas eu, évidemment, le destin présidentiel qu'il espérait, s'il était malgré tout parvenu à l'Élysée, est-ce que ça vous aurait plu, Maël Renoir, de devenir l'historiographe de la République française, ou en tout cas le mémorialiste d'un mandat présidentiel?
C'est pas la fonction d'une... Moi, j'ai été plume, donc...
Donc, chargé des discours.
Ensuite, on peut raconter a posteriori, beaucoup l'ont fait.
Beaucoup l'ont fait, les conseillers à l'Élysée ou à Matignon qui ont ensuite écrit des livres, un journal de Matignon, un journal de l'Élysée, il y en a systématiquement, quasiment, après.
Je peux pas l'exclure, mais je ne pense pas non plus que j'aurais cherché à devenir l'historiographe de cette partie de la Ve République, non.
Yeah.
Tal Saïb et le Shahabid Abdelaziz Tati dans VMDN sur RFI avec l'écrivain Maël Renoir qui publie L'historiographe du royaume aux éditions Grasset, un livre que plusieurs de nos auditeurs vont d'ailleurs pouvoir gagner en répondant à la fin de l'émission à partir de la page Facebook de VMDN à la question que je vous poserai dans un instant. Alors c'est un roman, hein, on le disait, mais avec des personnages réels, notamment le roi Hassan II ou encore le général Oufkir, hein, l'homme des missions délicates du roi. Avec des épisodes qui ont réellement existé, comme cette tentative de coup d'État que vous évoquiez au détour d'une réponse tout à l'heure, Maël Renoir. Elle s'est déroulée le jour de l'anniversaire du roi en 1971 dans la cité balnéaire de Skirat et vous la racontez de manière extrêmement drôle, voire burlesque. Déjà le dress code, il est assez particulier à ce moment-là.
Oui, il joue un rôle important dans le déroulement de l'événement, non pas seulement dans le roman, mais dans l'histoire telle qu'elle a eu lieu, parce que le roi avait demandé, le roi était lui-même dans une tenue assez décontractée, en polo et en jean, avait demandé sur le carton d'invitation à ce que ses invités fassent de même. Et quand les soldats vont arriver pour prendre d'assaut le palais, prendre les gens en otage, chercher le roi, eh bien, ils ne vont pas le trouver.
Parce que, le roi, effectivement, vous l'avez dit, est en polo et en jean. Et pour les courtisans, cette consigne, là, sur le carton d'invitation, là encore, c'est pas facile, parce qu'on sait pas trop s'il faut prendre la consigne au premier degré, au deuxième degré, ça veut dire quoi, une tenue décontractée? Enfin, ils s'arrachent les cheveux, quoi, les courtisans.
Un certain nombre de gens, de courtisans, se demandent ce que veut dire une tenue décontractée dans l'esprit d'un roi. Donc, dans le doute, beaucoup vont venir en complet avec une cravate.
Voilà. Le général Oufkir, lui, ministre de l'Intérieur, il arrive vraiment en slip de bain. Ça, c'est pas du roman, ça s'est vraiment passé.
Alors,
comme
ça. Il y a deux versions. J'ai lu les deux versions. J'ai lu plusieurs ouvrages pour me documenter sur cet événement. Certains le racontent de manière très détaillée. Dans certaines versions, il est présenté comme étant effectivement en maillot de bain.
Parce que ça ridicule complètement le personnage, ça lui donne un caractère.
Je pense plutôt que dans la réalité, ce n'était pas le cas, mais je l'ai lu dans certaines versions et j'ai choisi la version la plus romanesque pour le roman.
Et évidemment. Et donc, on a planté à peu près le décor. Visuellement, on a à peu près la situation. Et donc, c'est dans ce contexte, effectivement, vous le disiez, qu'un commando surgit. Et donc, votre narrateur, Abderrahman, sent que la vie du roi est menacée. Et comme il est mieux habillé que sa majesté, il a donc une idée lumineuse. Nous sommes à la page 150 du roman.
Je déclarai donc que j'étais le roi et me levai, attendant d'être empoigné, frappé, emmené et passé par les armes dans un recoin obscur comme un chien. Cette dernière représentation me frappa et, entrant plus avant dans mon rôle, avec une conviction qui me surprit, je plantai mes yeux dans ceux du soldat et lui dis « Je suis ton roi, oui. Vas-tu m'abattre comme un chien ?» Alors, au lieu de me gifler, de me cracher au visage ou de me tirer dessus sans sommation, ce jeune militaire s'écria « Majesté, nous sommes venus pour vous sauver. » On jugera de ma surprise quand j'entendis ces mots. Je feignis de mêler la fermeté et la magnanimité comme j'imaginais que le vrai roi aurait fait en répondant à ce soldat. « Alors, qu'attends-tu pour me baiser la main ?» Il s'agenouilla, s'empara de ma main et l'embrassa avec effusion, puis sembla guetter de ma part l'ordre de se relever que je lui donnais. Je résolus de continuer à jouer le rôle que je m'étais fixé, bien que les événements prissent soudain une tournure moins menaçante, car je fis réflexion qu'il y avait encore trop d'incertitudes pour envisager de faire reconnaître dès maintenant le roi sans le mettre en péril. J'abaissai mes yeux vers ce monarque agenouillé. Il ne montrait aucune émotion et ne protestait pas contre la substitution que je lui imposais artificieusement. Et je supposais que, étant entré dans l'ingéniosité de mon dessein, il feignait la plus grande discrétion pour ne pas le compromettre, cependant que le général réglait sa conduite sur la sienne. Une étrange imagination me traversa l'esprit et je fis effort pour la repousser loin de moi, comme si, en l'espace d'un instant, je faisais de mon sacrifice une usurpation. Je tirais avantage de cette étrange conjoncture en commandant aux soldats de se saisir de sa majesté, que je lui présentais comme un conseiller félon ou comme un simple quidam nuisible. Puis je prenais moi-même la tête des opérations et finalement le pouvoir tout entier, par un enchaînement d'événements dont j'occultais le détail et que je me savais peu capable de conduire, ayant perdu le souvenir des rares notions que j'avais eues de la vie militaire. Cette songerie mauvaise, dont je ne manquais pas de me faire reproche, ne dura que le temps d'attendre les explications du rebelle.
Et quelques lignes plus tard, Maël Renoir, Abderrahman rapporte les propos du roi qui lui dit « Prière de ne pas mettre un mot de tout cela dans les archives du royaume. D'ailleurs, personne n'en croirait rien. C'est du pur Alexandre Dumas. » Et c'est vrai que cet épisode, Maël Renoir, donc qui a réellement existé, peut faire penser au vicomte de Bragelonne. Vous avez tout de suite fait le rapprochement ?
Oui, alors ce qui a réellement existé, c'est que les soldats ont trouvé le roi caché dans les toilettes de son palais avec un petit groupe qui l'entourait. Et le roi s'attendait au pire et les soldats lui ont dit « Majesté, nous sommes venus pour vous sauver ». Comme dans la scène qu'on vient d'entendre. Pourquoi ? Parce que les rebelles, c'était un petit groupe d'officiers qui avaient embarqué dans cette opération des centaines d'élèves sous-officiers, des cadets, à qui ils ne pouvaient évidemment pas dire qu'ils allaient renverser le roi. Donc le prétexte qu'ils leur avaient donné pour prendre d'assaut le palais du roi, c'était « Le roi est mal entouré, nous allons le sauver des conseillers félons, des mauvais ministres, des hommes corrompus, de l'entourage du roi, etc. » Et à un moment, les deux officiers se sont violemment fâchés. Le colonel Ababou a tué le général Medbou, une sorte de figure d'ailleurs assez littéraire aussi. C'est un peu le vieux républicain dans Lorenzo Show, l'homme à principe qui ne veut pas que le sang soit versé et qui est mort. Sans révéler à l'autre où était caché le roi, le colonel Ababou est parti à Rabat, a laissé le contrôle de Skirat à ses jeunes officiers qui, quand ils ont trouvé le roi, on remit tout pouvoir entre ses mains, et à ce moment-là, le coup d'État a échoué. Donc, dans le roman, j'ai repris cet arrière-plan historique, mais avec mon personnage historiographe, j'ai inventé une scène inspirée du vicomte de Bragelonne, dans lequel, pendant quelques heures, ou peut-être même presque une journée, Aramis, ami du surintendant Fouquet, fait sortir le masque de fer de la Bastille, et donc, qui est dans le roman d'Alexandre Dumas le frère jumeau de Louis XIV, le met à la place du roi, enferme le vrai Louis XIV à la Bastille.
Voilà, et donc on est effectivement avec Alexandre Dumas, et donc déjà ce parallèle entre le Maroc d'Hassan II et la France du grand siècle, la France du XVIIe siècle, la France de Louis XIV, et on est obligé de penser forcément à Saint-Simon, parce que vous avez aussi dans ce roman, Maël Renoir, ce style très très XVIIe siècle. Vous vous êtes nourri de Saint-Simon ?
Je me suis un peu nourri de Saint-Simon. En réalité, c'est pas forcément l'influence stylistique la plus forte. C'est une influence thématique, évidemment, parce que Saint-Simon est le grand auteur de la vie de cour. Il y a d'ailleurs à la fin du roman une anecdote rapportée par Saint-Simon sur la disgrâce de Jean Racine que je trouvais très forte, parce que en la lisant et en lisant en même temps des livres sur le Maroc de Hassan II, je voyais des rapports se nouer. Jean Racine est tombé en disgrâce alors qu'il était historiographe du roi, simplement parce qu'il a osé prononcer sans s'en rendre compte le nom de Scarron, l'ancien mari de Madame de Maintenon, devant le roi et sa maîtresse. Donc j'avais retrouvé, il y a des passages qui se sont créés dans mon esprit entre les deux époques, entre Saint-Simon et le règne de Hassan II. Mais le style de Saint-Simon, et d'ailleurs ce qui est dit à un moment à la fin par un personnage, le style de Saint-Simon est très baroque, il est encore plus singulier que le style de La Bruyère, que le style de Antoine Galland, le traducteur des Mille et Une Nuits, ou que le style d'autres auteurs. Donc le style du narrateur qui effectivement est tourné vers le XVIIe siècle, ou même vers la première moitié du XVIIIe siècle, est inspiré de différentes lectures, mais pas uniquement de Saint-Simon.
Donc c'est une contrainte d'écriture forte quand même. C'est un plaisir ou c'est une souffrance d'écrire ainsi, Maël Renoir ?
C'est les deux, évidemment, comme l'écriture en général. Ça a été d'abord un plaisir, puis une souffrance quand je me suis rendu compte que ça ralentissait beaucoup le rythme de l'écriture du livre. Et ensuite, c'est redevenu un plaisir, car après plusieurs mois d'exercice, comme une sorte de footing ou d'athlétisme intellectuel,
oui.
ça devenait de plus en plus naturel. Et à ce moment-là,
écrit très facilement au passé simple, mais pour le subjonctif passé imparfait, plus que parfait, ça doit être plus compliqué quand même.
Oui, enfin c'est pas ça là vraiment la contrainte qui fait qu'on retrouve ce style là, c'est plutôt des petites tournures comme cette chose était si nanana que etc, qui est une façon de tourner les phrases extrêmement répandue à l'époque et qu'on a un peu perdu.
Alors au-delà du style, il y a quand même beaucoup de rapprochements, de parallèles sous votre plume entre votre récit et le siècle de Louis XIV, et aussi à travers un personnage qui s'appelle Moulay Ismaël et qui est finalement le point de départ de votre livre. En fait, c'est de lui que vous êtes parti.
Oui, alors ça, on remonte à ce moment-là à la première genèse du livre, qui est très très ancienne. Il y a presque 20 ans que j'avais lu par hasard, c'est-à-dire ça ressemble un peu à un conte des mille et une nuits. C'est en ouvrant un livre de voyage, qui d'ailleurs pas un livre seulement sur le Maroc, mais sur tout le pourtour méditerranéen, que j'avais lu un petit paragraphe sur Moulay Ismaël, donc sultan du Maroc, contemporain de Louis XIV, avec lequel il entretenait une sorte de rivalité, mais pas de... Ils se sont pas fait la guerre, mais une sorte de rivalité symbolique. Il voulait être aussi grand au sud que Louis XIV était grand au nord. Et je trouvais ce personnage particulièrement poétique, d'une certaine façon, et j'avais voulu écrire une petite histoire mettant en scène ce parallélisme avec Louis XIV à la façon des vies imaginaires de Marcel Schwab. Et j'avais commencé, d'ailleurs j'ai abandonné ce travail d'écriture pendant des années, et il m'est revenu en 2012 quand j'ai eu envie d'inventer un personnage de l'époque de Hassan II, donc plus proche de nous, mais qui, étant historiographe du royaume, serait conduit par ses fonctions à aller vers le XVIIe siècle, vers Louis XIV, donc vers aussi la langue de l'âge classique, vers la langue du grand siècle, et qui deviendrait en quelque sorte le pont, son histoire, son récit est le pont qui relie plusieurs univers à la fois temporel et culturel.
Voilà, et Abderrahmane est chargé par le roi de préparer les commémorations du tricentenaire de ce Moulay Ismaël. Et là aussi, ça va le jeter dans des abîmes de tergiversation, parce que, comme tous les souverains, il y a la part de lumière, mais il y a aussi la part d'ombre. Elle n'est pas négligeable, la part d'ombre.
Moulay Ismaël est un sultan qui a régné à peu près, enfin, très longtemps. Il a régné 55 ans. Donc très longtemps.
1672-1727, je crois.
Il a unifié le Maroc qui était déchiré entre plusieurs régions. D'ailleurs, après sa mort, il y a eu une nouvelle période de chaos, tellement sa main avait été de fer. Mais c'est pas évident d'imaginer qu'on puisse le célébrer comme cela, comme nous on a célébré le bicentenaire en 1989.
Oui, c'est un petit peu compliqué.
Et d'ailleurs, dans la réalité, il n'a jamais été question d'organiser une telle cérémonie. Et en parlant plus tard, après avoir écrit le livre avec quelques personnalités marocaines, ils ont tous pensé que c'était assez peu vraisemblable. Cela dit, aujourd'hui, en écrivant le livre, les choses sont peut-être un peu différentes, car j'étais tombé dans un magazine marocain sur un petit texte sur Moulay Ismaël, écrit par l'actuel historiographe du royaume.
Alors, on y a beaucoup de références littéraires, effectivement, dans votre livre, et il y a évidemment la référence aux mille et une nuits. Alors, vous le dites à la fin du livre, hein, d'ailleurs, vous-même, hein, les personnages dans les mille et une nuits se mettent par imprudence dans un péril mortel dont ils se tirent en racontant une histoire. Là, c'est un petit peu inversé, c'est-à-dire que c'est parfois l'histoire qui met le narrateur en danger, parce que cette histoire, l'histoire qu'il raconte, et Dieu sait s'il en a dans sa besace des histoires, Abderrahmane, peuvent déplaire au monarque, ces histoires-là.
Oui. Et c'est là qu'intervient aussi le livre dont on parlait tout à l'heure, Les 10 soirées malheureuses, cette parodie des mille et une nuits écrite au XVIIIe siècle par un haut fonctionnaire égyptien. Livre dans lequel le narrateur est atteint d'une sorte de folie narrative à la manière des mille et une nuits. Il veut tous les soirs réunir ses amis pour leur raconter des contes, des histoires. Mais soit il les endort, soit il les jette dans une fureur noire parce que il leur parle de choses qui sont de nature à les offenser mais sans s'en rendre compte. يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيد وسمعت وفكر شريد وسكت وقلبي شهيد ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيد وسمعت وفكر شريد وسكت وقلبي شهيد ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيل وسمعت وفكري شريد وسكت وقلبي شريد ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار
شريف وسكتي وقلبي شهيد وانا اللي كنت فاكرة انه حشتك من بعدي فاجئني بقصة تانية ضيعت الحلم الوردي وانا اللي كنت فاكرة اني واحدة اللي في قلبه اتاري واحدة تانية جت في ثانية شغلت قلبه
Algani Badioumine et la voix de Samira Saïd dans VMDN avec Maëlle Renoir qui publie l'historiographe du royaume aux éditions Grasset. Samira Saïd qui fut l'égérie du roi Hassan II qui lui demanda souvent de chanter en arabe mais aussi en français. Et on sent bien dans vos pages, Maëlle Renoir, l'intérêt du roi pour la culture française.
Oui, c'est un roi qui aimait citer les auteurs français, notamment Pascal, qui a aussi failli épouser une actrice française dans les années 50. Ils ont fait ensemble la une de magazines de l'époque, ce qui était impossible. Un futur roi ne pouvant pas se marier avec une femme d'un autre pays.
Alors Hassan II, qui a lui aussi, c'est le moins qu'on puisse dire, sa part d'ombre, le récit s'arrête en 1972, c'est-à-dire juste avant ce qu'on a appelé les années de plomb, juste avant la période de répression des opposants politiques. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'arrêter pile cette année-là? Pour pas parler justement de tout ça.
Alors, il y a plein de raisons. D'abord, la première, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce livre et que s'il avait fallu poursuivre la biographie de mon personnage au-delà, ça aurait encore été un travail peut-être de plusieurs années. Mais ensuite, cette année 72 marque une rupture dans l'histoire contemporaine du Maroc et d'une certaine façon, cette rupture est marquée par le silence de mon narrateur et par aussi le changement qui va survenir dans sa vie à ce moment-là, puisque il y a une sorte d'ellipse narrative à la fin, mais il est assez clair que ce personnage qui dans les années 50, à la sortie du Collège Royal, ne voulait être que écrivain, que poète, ne briguait aucune fonction officielle, qui ensuite est un peu rattrapé par le destin, reconduit dans l'entourage politique du prince et du roi après l'indépendance. Ensuite, devient historiographe du royaume, donc se rapproche un peu plus du roi. Après 1972, en fait, va devenir encore autre chose, c'est-à-dire peut-être une sorte d'homme de main, quelqu'un qui va contribuer à des actions obscures, peut-être à la brutalité qui va caractériser le régime à ce moment-là dans le traitement de ses opposants, dans le traitement aussi des soldats rebelles qui vont être enfermé au bagne de Taz Mamart, thème sur lequel par ailleurs Tahar Ben Zulun a écrit un roman, cette aveuglante absence de lumière qui en traite avec beaucoup de force, et d'ailleurs je n'avais pas non plus l'intention de rivaliser avec lui sur ce sujet. Et donc il y a tout un faisceau en réalité de raisons qui ont fait que je trouvais qu'il y avait du sens à faire interrompre son récit à cette époque-là. Aussi parce que, d'une certaine manière, ce style assez raffiné, ce style très classique, très ancien régime qu'il développe, ne serait plus adéquat à la description, au récit de ce qui va se passer après.
Il y a un autre personnage qu'on n'a pas encore évoqué, on ne va pas trop le développer, mais en dire quand même un tout petit mot, et là encore, c'est un prénom issu d'ailleurs un peu des Mille et Une Nuits, c'est Morgiane. Oui. Morgiane, c'est une femme absolument, absolument extraordinaire, issue d'une lignée prestigieuse. Jamais je n'avais vu autant de charme à la fois, écrit Abderrahmane. Vous pouvez nous la présenter en quelques mots, mais sans trop en dire, hein, parce que c'est un personnage assez mystérieux.
C'est un personnage très mystérieux et qui joue un rôle important dans la fin du récit. Voilà. Il y a quelque chose d'inattendu qui apparaît à la fin.
Donc
un coup de théâtre serait dommage de tout dire. C'est un personnage qui effectivement paraît de toutes sortes de qualités, un peu à la manière de ce qu'on peut lire dans La Princesse de Clèves, enfin dans la description des personnages féminins de la littérature du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle. Et c'est aussi un personnage qui a une influence littéraire assez claire dans mon esprit, qui est celle de Vanessa dans Le Rivage des Sirtes,
Julien Gracq.
De Julien Gracq. Et aussi, dans un tout autre univers, Faye Dunaway dans l'affaire Thomas Crown.
Ah oui, donc
le film dans lequel il y a une scène de jeu d'échecs entre Steve McQueen et Faye Dunaway. Il se trouve que le narrateur et Morgaine jouent aux échecs, évidemment. Si vous avez l'occasion de revoir le film, vous verrez que le parallèle n'est pas du tout absurde. Elle vient dans mon roman. Elle vient d'une grande famille, ce qu'on appelle les familles shérifiennes. C'est-à-dire une sorte d'aristocratie du monde islamique dans lequel la noblesse n'est pas liée au fait d'avoir été dans l'entourage des premiers rois de France, comme c'est le cas chez nous, mais cette aristocratie est composée de descendants du prophète.
Merci beaucoup Maël Renoir d'avoir été avec nous. Merci d'avoir rédigé en quelque sorte oralement avec nous l'historiographie de l'historiographe du royaume, en l'occurrence un livre paru,
merci Jean-François Cadet,
je le rappelle, chez Grasset, un livre que nos auditeurs vont pouvoir gagner en répondant à la question du jour. Réponse en message privé, vous en avez l'habitude maintenant, à partir de la page Facebook de l'émission. La question est la suivante, pour une fois elle ne concerne pas le roman lui-même mais l'auteur. De quel premier ministre français Maël Renoir a-t-il été naguère le conseiller? On en a parlé tout à l'heure, alors on attend donc vos réponses.
Et prit le train pour Cuba. Deux mois après, elle était vedette, la grande diva de l'opéra. Quand on lui dit qu'avec une voix pareille, sa fille gagnait des millions, le père courut au village, s'acheta une guitare d'occasion en criant « Au diable les bénènes, je me lance aussi dans la chanson !» Et alors
Salvador et Juanita Banana sur RFI. À propos de bananes, justement, un petit tour au théâtre avec la pièce Bananas and Kings que Marjorie Bertin est allée voir au théâtre de la Reine Blanche à Paris. Un spectacle mis en scène et écrit par Julie Timmerman et qui porte sur la Chiquita Brands International, la célèbre entreprise de bananes, symbole s'il en est de l'impérialisme américain.
Quelques chaises, un rideau de plastique noir, quatre comédiens. En deux heures, ils vont jouer 43 personnages pour raconter une saga, celle de la United Fruit Company, la célèbre entreprise américaine d'exportation de bananes, devenue Chiquita Brands. L'auteur, comédienne et metteur en scène Julie Timmerman raconte comment, pour faire fortune, United Fruit a exploité, voire conduit à la mort des ouvriers. Une histoire qui commence en 1899 avec Minor Keith, un jeune américain ambitieux qui crée cette entreprise en Amérique centrale, au mépris des locaux.
Dans le système de Minor, qui a surpassé le système esclavagiste, on ne fait pas de discrimination. Tu as une terre, je te la prends. Tu as un fils, je te le prends. Rassure-toi, ton fils sera un homme libre. Il paiera pour s'habiller, il paiera pour se loger, il paiera pour manger, il paiera pour crever.
Julie Timmerman montre la rapidité avec laquelle la United Fruit s'implante partout en Amérique centrale. Guatemala, Honduras, Colombie, Jamaïque. Cette saga se raconte à travers les dirigeants du groupe et quelques victimes, notamment Alma, une indienne expropriée, frappée et finalement tuée pour avoir osé se révolter contre la confiscation de ses terres. Vêtue d'une robe et d'une couronne traditionnelle, le visage peint d'un maquillage tribal terrifiant, son fantôme vient, en silence, hanter le président de la compagnie dans son bureau.
T'es sourde ou quoi? Bah, t'es bébé, mais enfin, qu'est-ce que tu fous là? Ne bouge pas. Très bien. George, venez, j'ai besoin de vous. J'ai une indienne dans mon bureau. Oui, je sais pas, elle est comme ça. Il y avait personne, tout d'un coup, pouf, elle était là.
Pour Anne Cressant, qui joue ce rôle et une multitude d'autres avec brio, ce personnage est un fil rouge important.
C'est pour moi une manière de la faire exister avec puissance, avec aussi une manière de communiquer avec le public qui change de la parole, puisque sa parole n'est pas entendue, on assiste à son procès, puis après elle meurt. Et du coup, de la faire exister en tant que fantôme, qui convoque toute sa culture, c'est une manière assez forte de la faire exister et perdurer dans le temps.
Car le scandale est gigantesque. Au-delà des meurtres de tous ceux juges ou ouvriers qui se mettent en travers de la compagnie, Bananas and Kings raconte que les hommes qui traitent les bananes deviennent stériles. Aucune importance pour les dirigeants de la United Fruit, qui connaissent les risques, mais ne veulent surtout pas perdre d'argent. L'ingérence américaine est partout, y compris dans la vie politique de l'Amérique centrale. Pour Julie Timmerman, ce spectacle doit donc aussi se voir comme une réflexion sur la démocratie.
Je m'appuie sur des faits historiques justement pour montrer comment une multinationale met en péril la démocratie. Et moi j'en tire les conclusions pour le monde contemporain. Et je pense que le pouvoir de l'argent, malheureusement, est toujours un grand péril pour la démocratie et pour nos désirs humanistes et de citoyens.
Pouvoir confisqué, marchands cupides, militaires bouffons, CIA, corruption et soulèvement populaire défilent sous le regard des spectateurs, concentrés pendant les deux heures du spectacle. La mise en scène pleine de tension est minimaliste. Les comédiens totalement habités par leur rôle sont aussi de formidables artisans, capables de métamorphoser l'espace scénique en quelques secondes. Une puissante épopée sur le libéralisme, l'écologie et la mondialisation.
Marjorie Bertin pour VMDN et une pensée évidemment au théâtre, aux salles de concert et de cinéma, au restaurant aussi, à tous ceux qui les font vivre, pour lesquels l'annonce hier d'un couvre-feu à 21h dans 9 grandes métropoles françaises, dont Paris, sonne comme un nouveau coup dur, même si certains vont essayer de s'y adapter le mieux possible. Petite pensée donc et énorme soutien évidemment. Dans un instant, le journal sur RFI. Demain, on part en Corée du Nord, cette fois avec le photographe Stéphane Gladieux, pour un livre de portraits absolument impressionnant qui vient de sortir aux éditions Actes Sud. Et vous m'en dire des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.